Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au 9e art avec la 36e aventure de Tanguy et la Verdure parue chez Dargo et intitulée Marée Rouge en mer Noire. Nous aborderons cette BD en compagnie de ses trois auteurs, les scénaristes Patrice Buendia et Frédéric Zumbiel, ainsi que le dessinateur Sébastien Philippe. Nous chroniquerons également un gros coup de cœur Mortis, l'éternel retour de Miguel Ferrada au scénario et Italo Ahumada au dessin, une BD éditée par Nine Editions. Nous évoquerons les deux derniers nés du label 619 disponible chez Rue de Sèvres, à savoir Low Leader tome 3 de Ron Petit Rapace, Ours et Pivoine, et également Cloved, livre 1, La Dame de Birka de Florent Maudou. Et enfin, nous causerons de Friday, livre 2, paru chez Glénat et signé Ed Brubaker au scénario, Marcos Martin au dessin et Munza Vicente à la couleur. L'équipe de Culture Prohibée remercie Samantha Gonzalez, Eva Hoff et Dorian Sibilé pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires.
Où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courage malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse. La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière.
À mes côtés pour causer 9e art, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Il est présent dans ce studio le fameux, l'unique Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Jérôme et bien évidemment salut à toutes.
Mon cher Thomas, tu as décidé de t'envoyer en l'air avec des héros de ton enfance, Tanguy et la Verdure, car oui, Tanguy et la Verdure existent toujours et il y a même des nouveaux albums qui paraissent.
Oui, mais en tout bien tout honneur, hein, avec Tanguy et la Verdure quand même. Hein. Et oui, des nouveaux albums qui paraissent depuis quand même un petit moment, car après 14 ans, les éditions Dargo reprennent la série des aventures de Tanguy et la Verdure, deux amis inséparables, pilotes de l'armée de l'air française. Bon, on me dira que c'est pas bilan carbone friendly, mais bon, tant pis. Créée par Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo, cette bande dessinée est d'abord publiée dans le journal Pilote en 1959. Si Michel Tanguy est sérieux, honnête et dévoué, la Verdure est quant à lui excentrique, gaffeur et maladroit, tout en se révélant un bon coéquipier dans les situations difficiles. Les deux compères sont habitués aux missions dangereuses, sinon il n'y aura pas d'album. La bande dessinée rencontre un tel succès qu'elle est adaptée à la télévision sous le titre Les Chevaliers du Ciel, avec au générique une chanson interprétée par Johnny Hallyday. Les albums reprennent le titre de la série et la couverture s'adapte aux faciès des comédiens sous le coup de crayons de différents dessinateurs. Albert Uderzo, voulant se vouer entièrement à Astérix, il cède sa place à Jigé, puis à d'autres dessinateurs jusqu'en 1988, fin de la première série. La série redécolle en 2002 sous la plume de Jean-Claude Lédin et un coup de crayon de Yvan Fernandez, le temps de 5 albums. Mais encore une fois, plusieurs dessinateurs se succèdent avant de se fixer sur l'équipe qui continue de faire vivre des aventures aux deux pilotes, Patrice Buendia et Frédéric Zimbiel au scénario et Sébastien Philippe au dessin. Aujourd'hui sort le 11e album de cette nouvelle série des Chevaliers du Ciel, Tanguy et la Verdure, qui est aussi leur 36e aventure en comptant les éditions historiques. Marée Rouge sur Mer Noire fait suite à une frontière obscure qui était sortie peu après la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine. Une coïncidence quelque peu malheureuse, l'actualité rattrapant ce qui est au départ une bande dessinée de politique fiction. Une frontière obscure relate la mission de Tanguy et la Verdure envoyée en Kouranie qui entretient des relations tendues avec la Russie pour effectuer un rôle de police de l'air. En route, il croise la route d'un ovni, ni plus ni moins. Les services de renseignement militaire leur demandent d'en savoir plus sur ce mystérieux appareil. Mais ils doivent aussi composer avec un contexte explosif où le moindre incident pourrait déclencher une guerre. Marée Rouge en Mer Noire conclut donc ce diptyque avec fracas. Le scénario s'avère complexe et peu manichéen, décrit bien les différents arrangements qui existent entre les différentes puissances. La Russie et la Kouranie, leurs enjeux, les magouilles des autres, ici les États-Unis sous la forme de la CIA, soit pour éviter une guerre, soit pour s'approprier des secrets militaires. L'intrigue met aussi en évidence les intérêts qui divergent entre les politiques et les militaires ou même les civils. Surtout, l'action est au rendez-vous avec beaucoup de combats aériens qui sont aussi bien tendus que rendus, tant par le dessin que le découpage par Sébastien Philippe. Il existe un vrai souci du détail, de réalisme avec de nombreuses notes techniques sur les manœuvres des avions, leurs équipements. La fin est cependant vite expédiée et peut laisser un petit goût amer par son côté sombre, mais aussi parce qu'elle appelle directement une suite. Et cela malgré la position du mot fin sur une dernière case sur laquelle plane le désespoir. Mais faisons confiance aux trois auteurs qui sauront nous concocter un nouvel album plein de rebondissements et d'humour, en sachant s'inspirer de l'actualité et de ce nouveau méchant qu'est Vlad, celui qui est plus adepte du poison que l'autre du supplice du pal.
Tout de suite, Patrice Buendia, Frédéric Zimbiel et Sébastien Philippe au micro de Culture Prohibée.
Patrice Buendia, Frédéric Zimbiel et Sébastien Philippe, pour vous, reprendre la série Tanguy et la Verdure, qu'est-ce que cela signifiait ?
Alors, en ce qui me concerne, je dois avouer que c'était très très émouvant parce que, pour le coup, autant j'ai pas été un grand lecteur, moi, de Tanguy et la Verdure enfant, même si j'avais l'album L'Escadrille des Cigognes à la maison, que j'ai d'ailleurs bien maltraité. Mais par contre, j'étais un gros fan de la série télé, des Chevaliers du Ciel. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai eu l'occasion de travailler sur cette série-là, j'étais un peu comme un dingue, quoi. C'était vraiment une grosse émotion, parce que j'avais vraiment l'impression de jouer avec mes héros de jeunesse.
Alors moi, contrairement à Patrice, j'étais un grand fan des BD de Tanguy et la Verdure quand j'étais gamin, et aussi des Chevaliers du Ciel. Et donc effectivement, oui, ça a été très émouvant de reprendre cette série et donc de travailler sur quelque chose d'emblématique qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Voilà.
Ça a été surtout un challenge de se dire que on allait devoir reprendre le dessin derrière les auteurs qu'il y avait eu avant moi. Mais voilà, en fait, au départ, il y a eu pas mal d'interrogations, mais plus pour savoir si j'étais la bonne personne et avant de commencer à travailler. Et par contre, une fois que je me suis dit « oui, bon, ok, je vais le faire », là, par contre, j'ai plus trop regardé dans le rétro et je me suis contenté de faire confiance à mes camarades et d'avancer, quoi.
Alors, vous parliez justement de défis, là. Succéder aux auteurs historiques que sont Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo, en quoi, justement, c'était un défi et comment vous vous êtes adapté, comment vous avez adapté et travaillé votre style, que ce soit au scénario et au dessin?
Alors, pour la partie scénario, si je peux parler pour notre partie à Fred et moi, il y a un facteur qui joue beaucoup, c'est qu'il y a deux séries de bande dessinée Tanguy et la Verdure. La série dont nous parlons maintenant, qui est la série qu'on appelle Mère ou la série moderne, qui donc poursuit les aventures des deux héros jusqu'à aujourd'hui, donc dans l'environnement et la technologie d'aujourd'hui. Et puis on a une autre série qui s'appelle Tanguy et la Verdure classique, qui là se propose dans le style des créateurs, c'est de Charlie Uderzo, de créer de nouvelles histoires dans la période qui va de la fin des années 50 jusqu'au tout début des années 70. Alors pour cette série-là, effectivement, la question du style se pose très fortement, parce que le but du jeu, c'est vraiment d'être dans l'esthétique Charlie Uderzo. Donc là, on essaye d'être aussi proche que possible de ce que les grands maîtres ont pu faire. Par contre, dans la série dont nous parlons là maintenant, cette question de ressemblance est moins prégnante. Le but du jeu, c'est évidemment de poursuivre une série vénérable et deux auteurs mythiques, mais c'est aussi d'être une vraie série actuelle, c'est-à-dire dans un environnement de géopolitique qui est celui que nous connaissons tous, en ayant si possible toujours à l'esprit le fait que ça prend un an de réaliser un album, donc il faut que nous soyons toujours un petit peu en avance sur ce qui se passe dans l'actualité, ou en tout cas d'être vraiment en phase, mais aussi d'un point de vue technologique, là Fred pourra en parler mieux que moi puisque c'est un ancien pilote de chasse, d'être vraiment au plus près de la technologie d'aujourd'hui d'un point de vue aéronautique, mais aussi du point de vue des armes, des missiles, des choses comme ça.
Pour la partie graphique de la reprise de cette série, il était important pour moi de retrouver les personnages tels que je les avais en mémoire. Enfant, je lisais Tanguy et la Verdure, mais j'aimais beaucoup les dessins de Uderzo quand ils ont créé la série. Et il y a eu d'autres auteurs qui étaient très très bons derrière, mais qui me parlaient moins en tant qu'enfant. Et donc du coup, quand il a été question pour moi de reprendre la série, naturellement, je me suis replongé dans les albums d'Uderzo et pas de ses successeurs. Du coup, l'idée, c'était vraiment de m'appuyer sur le travail d'Uderzo pour la partie graphique des personnages. Alors, pas sur le style total de la bande dessinée, puisque comme disait Patrice, on est vraiment dans une série moderne, avec un contexte géopolitique, militaire, très très moderne et très contemporain. Et j'aime bien, moi, le dessin réaliste précis. Mais par contre, je voulais qu'on puisse retrouver les héros tels que les avait créés Uderzo. Donc le challenge a été de pouvoir, calquer les têtes et les visages de Uderzo tels que lui les avait pensés sur des tenues contemporaines, sur des avions contemporains. On avait un petit doute sur la Verdure parce qu'il a un côté très caricatural, mais avec les premiers essais, on a vu que ça fonctionnait plutôt pas trop mal. Donc j'ai continué à m'appuyer grandement sur le travail d'Uderzo pour les deux personnages principaux, tout en ayant beaucoup plus de liberté sur le reste du dessin.
Frédéric Zumbiel, je vais devoir vous solliciter, désolé, mais en tant qu'ancien pilote, je suppose que vous apportez beaucoup par rapport à votre expérience, mais y a-t-il des détails, des éléments que vous devez dissimuler ? Est-ce que, en tant qu'ancien pilote, vous êtes contraint à un devoir de réserve ?
Il n'y a pas de devoir de réserve. Par contre, sur toutes les séries aéro que je fais, notamment Team Rafale, je parle beaucoup du Rafale, et là, en fait, c'est plutôt au niveau technique. Il y a des données que je ne peux pas donner. Par exemple, les portées radar exactes, les portées missiles exactes, ça c'est classifié, donc on est obligé de jouer avec une fourchette assez large, mais on peut pas être très précis à ce niveau-là. Après, en ce qui concerne toutes les techniques de combat, en fait, ce sont des techniques de combat OTAN qui sont très connues, il n'y a pas de mystère. Les ennemis de l'OTAN, entre guillemets, sont au courant de ces techniques-là, donc il n'y a rien à cacher, en fait.
Et la technologie à laquelle vous faites référence dans ces deux albums, Une frontière obscure et Marée rouge en mer noire, est-ce qu'elle existe ou est-ce que c'est de la pure politique fiction ?
Non, alors nous on part toujours sur une technologie alors soit très plausible, soit qui existe déjà, on anticipe un peu en fait. Et donc ça c'est pour la technologie. Et ensuite sur le contexte géopolitique, on s'est aperçu que bien souvent on est rattrapé par la réalité, à tel point que sur nos deux derniers albums, là, on a dû mettre un petit encart pour expliquer que on avait écrit le scénario bien avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Et voilà, mais c'est pareil sur Bob Dani, c'est pareil sur Team Rafale aussi. On est très très souvent rattrapé par la réalité, mais en même temps, c'est pas, comment dire, c'est logique, puisque on se projette toujours un petit peu dans le futur, comme le faisait d'ailleurs Jean-Michel Charly, il aimait bien faire ce genre de choses également. Et donc ça crédibilise un peu plus nos histoires.
Écoutez Patrice Buendia, Frédéric Zumbiel et Sébastien Philippe, les trois auteurs de Marée Rouge en mer Noire, le 36e album des aventures de Tanguy et la Verdure paru chez Dargo, au micro de Culture Prohibée.
À l'instant, vous avez fait référence au fait qu'Une frontière obscure est parue peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et justement, est-ce que cela a influencé, est-ce que cette actualité a influencé l'écriture du deuxième tome ? Est-ce que vous avez dû changer des choses, Patrice Buendia et Frédéric Zumbiel ?
Pas vraiment, parce que quand on présente un nouveau cycle, à nos éditeurs, en l'occurrence Alex Paringo pour Zéphir et Nicolas Thibaudin pour Dargo, on leur présente un cycle complet. Après, c'est assez, ça peut être délicat de modifier une histoire dont certains éléments ont déjà été posés, par exemple dans le premier tome. Donc la plus grosse modification qu'on ait pu faire, je pense que c'est justement l'encart dont parlait Fred, c'est-à-dire précisant que bien évidemment il ne s'agissait pas d'exploiter une actualité assez terrible, c'était juste que voilà, comme on essaye nous toujours de projeter nos personnages dans les lieux les plus, dans les endroits les plus compliqués de l'actualité géopolitique, sur ce coup-là on a tapé presque trop juste, c'est-à-dire effectivement on a anticipé l'invasion un peu 2 ans avant qu'elle ne se produise, puisqu'en général c'est ce délai-là qu'on prend pour présenter les projets, pour commencer après à les retravailler, puis aller faire dessiner par Sébastien.
L'album était prévu en sortie au mois de mars 2022 au départ. Il a été décalé au mois de juin pour des raisons purement éditoriales. Et la date de sortie d'origine avait été maintenue, on était à 2 jours de l'invasion de l'Ukraine. Mais par contre, comme vient de le dire Patrice, moi, le premier script non détaillé que j'ai de cette histoire-là, il date de mai 2020. Donc effectivement, 2 ans avant.
Vous changez quand même le nom de l'Ukraine et vous l'appelez la Kourani. Pourquoi ce changement ? C'était impératif
Alors pour s'offrir, je pense que Fred sera d'accord avec moi là-dessus, pour s'offrir simplement une marge de liberté. C'est-à-dire que si on traite véritablement de l'Ukraine ou de n'importe quel autre endroit un peu chaud du monde actuellement, on va être obligé d'être tenu de parler des personnages, des personnes réelles qui la dirigent ou qui sont déterminants de ces endroits-là. Et on préfère ne pas être tenu par des considérations qui pourraient, là pour le coup, devenir plus politiques et donc un peu gênantes à gérer, quoi. Donc, mais en même temps, on veut être dans quelque chose qui se rapproche de la réalité, mais qui ne l'est pas complètement. C'est-à-dire qu'on essaie de se débarrasser des contraintes. Donc on préfère appeler ça la Kurani plutôt que l'Ukraine, même si tout le monde comprend bien où ça se situe et de quoi ça parle. Alors après, évidemment, pour un pays comme la Russie, c'est difficile de ne pas le citer, mais pour les autres pays, autant que possible, quand on a trait à des actualités un peu sensibles, on préfère en modifier le nom, ça offre, bon, c'est vraiment quelque chose de fréquent dans le domaine de la fiction, hein, que ce soit en bande dessinée, en littérature ou au cinéma. Mais du coup, voilà, ça offre une marge de liberté et ça permet de pas être. Parfois, ça peut être un peu. Enfin, pour le coup, ça peut être vraiment délicat parfois, parce que là, bon, on parle d'une invasion qui a fait des dizaines et même aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de morts. Bon, c'est mieux de rester dans le domaine de la fiction en utilisant un autre nom plutôt que d'être dans la réalité la plus dure de ce type de guerre, quoi.
Patrice Buendia et Frédéric Zumbiel, comment vous partagez-vous l'écriture ? Travaillez-vous tous les trois avec Sébastien Philippe en étroite collaboration dès l'écriture ?
Patrice et moi, on se téléphone et on fait des séances par téléphone et on construit notre histoire comme ça. Et en fait, c'est une espèce de ping-pong mental. On propose des idées, chacun son tour, et puis on construit peu à peu l'histoire. Jusqu'à faire un traitement qui soit assez précis. En fait, un traitement, c'est un synopsis qui est très détaillé, avec le nombre de pages pour chaque séquence. Comme ça, on sait où on va. Une fois qu'on a fait ce traitement, on envoie notre directeur de collection, Alexandre Paringot, et puis on l'envoie bien sûr aux ayants droit. On l'envoie aussi à Sébastien. Une fois que tout le monde est d'accord, eh bien, on s'occupe du découpage. Donc le découpage, c'est réellement à partir de ce document que va travailler le dessinateur, puisque en fait on décrit ce qui se passe case par case, on a tous les dialogues. Et donc pour la répartition du découpage, oui, alors moi je m'occupe bien sûr des scènes aéro, combat aérien, voilà, parce que c'est ma spécialité. Patrice s'occupe plus des scènes au sol. On essaye de faire à peu près la parité, en avoir en gros 23 planches chacun à faire, et puis voilà.
Et pour le coup, effectivement, on implique quand même Sébastien assez tôt, parfois même avant de le présenter aux ayants droit ou aux éditeurs, pour que bah, lui nous fasse des retours par rapport à ce qu'il va dessiner aussi. Et puis, dans la mesure où nous, Fred et moi, on est vraiment la tête dans le guidon, on échange des idées, on est dans l'enthousiasme, parfois il y a des points de scénario qui peuvent coincer un peu, dont on ne se rend pas forcément compte. Donc Seb nous fait des premiers retours qui sont hyper précieux. Et puis après, justement, on aménage en fonction de ça.
Nous vous rappelons que ce nouveau Tanguy et la Verdure qui s'appelle donc Marée Rouge sur Mer Noire, dont vous avez pu écouter les auteurs à l'instant, est disponible chez Dargaud. More than a sidekick, don't have abilities like a psychic. True. And I can fly him, but now is it really such a surprise? And when I swing into the joint with a high kick, but I'm still leading some titans. I find it when the crisis arises, something way different than what a dark night is. Take a flight, but they see me and go hide. More than a sidekick, more than a robin, gymnast a fight, and crime up in Gotham. Why you all hide and take a few talks and ask for more? Better step back and watch me. I am the knight to go take out a Glock, but that don't mean I don't got other options. You can be sure I'm still getting my shots, and with that I'm staying more thick than my plot is. Feel like Nightwing, I won't fall just cause I might spring in the dark, but it's like work, I mean no speed force, but I'm quick as lightning, flow so smooth. Every time I'm fighting, try to do what it thinks the right thing. No bright ring or try to buy me, just do my thing, feel like
vous écoutez Culture Prohibée.
When I pull up in the black and blue, those are the same colors that'll leave you. I'm the acrobat with the ass that has been the bat, but after all that I'm through. Rewind like a VHS, like I put Blockbuster out of business. Big head, please say less, you got no wit, I'm with this, you just witness. Kryptonian name, don't mean to be blunt, but I'm not faster than a speeding bullet. I'ma have to cut this short up front like I brought back the freaking mullet. I ain't where it's sunny now that I'm out for Bloodhaven. No Solomon Grundy, but they also call me Grayson. Feel like Nightwing, I won't fall just cause I might spring in the dark, but it's like work, I mean no speed force, but I'm quick as lightning, flow so smooth every time I'm fighting, try to do what it thinks the right thing, no bright ring or try to buy me, just do my thing, feel like Nightwing.
Après deux héros iconiques de la BD européenne, on va passer maintenant à un personnage, un personnage secondaire lié à un héros iconique de l'histoire du comics. Je veux bien sûr parler de Nightwing, hein, Nightwing qui est, là dans la série Nightwing Infinite, de nouveau mis en valeur, hein, Nightwing qui est gravite donc dans la galaxie Batman, au cas où vous ne seriez pas des initiés, et dont va tout de suite nous parler notre ami Damien Demey.
C'est un tome particulier avec lequel je suis venu aujourd'hui parce qu'il apporte une fin à pas mal de pas mal d'arcs narratifs. Il ajoute aussi des histoires qui habituellement sont un peu en retrait. Par exemple, dans ce tome 4, on a le Nightwing annual 2022 qui sont des comics ou des petits comics qui apparaissent pour compléter les histoires et qui sont très très sympas. Est-ce que je dois encore présenter Tom Taylor et Bruno Redondo ? Je sais pas, j'aurai peut-être pour une prochaine émission, mais en tout cas, sachez que bah, ils ont gagné l'Eisner Award, qui est une des récompenses des comics avec ce Nightwing. Et il y a plusieurs histoires qui sont très chouettes dedans. Bah, directement, le Nightwing annual, qui est un épisode en deux parties. Une partie avec la vie rêvée du chien de Nightwing, qui est sympathique, mais que je mets de côté. Mais surtout, une histoire très très cool qui montre la différence entre Nightwing et Batman. Ce que j'aime énormément, parce que très souvent, quand ils sont adaptés, Nightwing étant le premier Robin, on le définit souvent comme un Batman, un sous-Batman. Alors que le comics permet vraiment de montrer les différences. Nightwing a eu les conseils de Batman, mais il a changé, il a évolué. Et c'est très intéressant parce que John Kent, le fils de Superman, vient justement le voir pour avoir des conseils. Et on a toute cette mise en parallèle entre ce que Batman a dit à Nightwing quand il était plus jeune et comment Nightwing aujourd'hui... Bah, comment est-ce qu'il le transmet, le modifie. Par exemple, on a un exemple où Superman a peur de frapper Nightwing et Nightwing lui explique qu'il peut y aller, qu'il réussira à recevoir le coup. Et à ce moment-là, bah, John Kent n'a pas confiance en lui et Nightwing fait confiance à John Kent pour ne pas le blesser. Et à ce moment-là, bah, on a un Batman du passé qui revient dans les souvenirs de Nightwing et qui lui explique qu'il ne faut faire confiance à personne. Ce à quoi Nightwing répond à John Kent directement, moi je te fais confiance. Et ce Nightwing possède du coup le numéro 100. Du coup, on est déjà à 100 épisodes depuis les arcs Rebirth. Et il permet d'avoir la fin d'un arc qui est très très cool, qui vient après Dark Crisis, donc après que la Justice League soit morte, revenue à la vie et que les Teen Titans aient empêché justement la fin du monde. Et marque aussi du coup la dissolution de la Justice League qui n'a pas pu empêcher la Terre d'être mis en danger et fait des Titans la nouvelle Justice League sur Terre. Et l'un des moments que j'aime le plus dans ce comic, c'est un passage très émouvant où pour la première fois depuis la mort de Alfred, que tout le monde connaît de l'univers Batman, depuis la mort de Alfred, bah, Nightwing et Bruce se retrouvent pour la première fois sur la tombe de Alfred, ont une discussion à cœur qui est très émouvante et incroyablement belle. Tom Taylor donne beaucoup d'importance à Nightwing et finalement à cette figure filiale qu'il incarne, ce qui est très très rare de voir à quelques exceptions, comme dans Spider-Man Across the Spider-Verse, une autre adaptation de comics américains. Et personnellement, avec la fin de cet arc narratif, j'attends impatiemment le comics Les Titans, qui devrait bientôt sortir chez Urban Comics, car même si en solo Tom Taylor est brillant, j'attends de voir ce qu'il est capable de faire avec une équipe.
Donc on rappelle que Nightwing Infinite, tome 4, le grand saut de Tom Taylor et Bruno Redondo, est disponible chez Urban Comics. Bah moi, je vais rester dans une BD qui vient d'Amérique, quelque part, hein, puisque Mortis, l'éternel retour, c'est une BD outre-Atlantique qui s'inspire d'un mythe chilien. C'est surtout la nouvelle BD éditée, la deuxième, par l'éditeur Nine Edition, qui est un éditeur qui est à quelques kilomètres de la radio, là, de notre studio. Et donc, on est très fiers de soutenir le travail de Samantha Gonzalez. Alors, surtout qu'on est fiers de soutenir ce travail, parce que ce travail est très bon. Voilà. Mortis, qu'est-ce que c'est ? Mortis, au départ, c'est une BD qui va s'inscrire. Hein, donc cette BD signée Miguel Ferrada et Italo Ahumada. J'espère que je le prononce bien. Hein, Italo Ahumada au dessin et Miguel Ferrada au scénario. Qui va s'inscrire dans la tradition des aventures du sinistre Docteur Mortis. Alors, ça vous évoque peut-être pas grand-chose, ce sinistre Docteur Mortis. Mais c'est un vrai personnage mythique que les auteurs là ont choisi de moderniser, alors à travers un pitch assez assez classique, presque carpenterien d'ailleurs pour les fans de cinéma, presque The Thing. Sur une île lointaine et inconnue au milieu de l'océan Pacifique Sud, trois soldats en mission pour protéger un mystérieux dôme sont isolés lorsqu'une étrange tempête s'abat sur le site. La mort inexplicable de l'un d'entre eux pousse les deux survivants à s'affronter sans savoir que ce qui se cache sous le dôme est sur le point de se réveiller. Et donc, Là, les auteurs modernisent le personnage, le mythe, le docteur Mortis. Le docteur Mortis, c'est quand même, comment dire, un personnage absolument mythique qui va connaître diverses incarnations, qui va être un feuilleton radiophonique, qui va... Ce sont des pièces de théâtre un peu grand-guignonesques, radiophoniques, avec ce personnage, El Sinistro Dr. Mortis, voilà, qui fait très très peur, j'ai un accent, comment dire, espagnol absolument incroyable. Et qui va devenir un personnage de comics, en fait, de bande dessinée particulièrement bien servi. J'avais eu, la chance de pouvoir voir quelques extraits de fascicules qui m'avaient beaucoup plu. Puis c'est un personnage qui est un peu tombé, qui a un peu disparu, parce que quand Pinochet est arrivé au pouvoir avec toute sa clique suite au coup d'État du 11 septembre 73, les auteurs se sont un peu planqués parce que c'était mal vu, ils n'étaient pas très bien vus, on va dire, voilà, pour éviter d'avoir à subir des atrocités. Et là, on est beaucoup plus tard, hein. On est avec deux auteurs qui, eux, sont nés sous cette dictature, hein. C'est Miguel Ferrada, qui est né en 76, qui est donc écrivain et qui est plutôt spécialiste du thriller, hein, de l'épouvante, et qui là donc signe le scénario de cette BD. Et c'est Italo Ahumada qui est architecte, voilà, et qui fait les dessins de cette BD, dessin d'ailleurs sublime. Alors là, les auteurs choisissent de s'inscrire, hein, dans la tradition des aventures du sinistre docteur Mortis, et les auteurs, via des touches lovecraftiennes, modernisent le personnage qui devient, à l'image du travail d'un John Carpenter au cinéma, l'incarnation d'un mal diffus et absolu, en fait. Donc à la fois très tangible et intangible, endogène et exogène. Le noir et blanc est sublime, et le trait millimétré d'Italo Ahumada n'est pas sans évoquer les vieilles planches de Walter Simonon ou un Bill Sienkiewicz aguerri, j'ai envie de dire. Voilà. L'écriture est brillante, alternant les pages du journal intime de l'architecte Daniel Rodriguez et des péripéties brillamment découpées. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Je comprends même pas, j'ai pas vu beaucoup d'articles sur cette BD. Pourtant, cette BD, elle est ultra culte. Elle a été... d'ailleurs, c'est la deuxième édition, en fait. Moi, je ne savais pas qu'elle était sortie une première fois en France. Mais cette BD est ultra culte et elle jouit d'une réputation extraordinaire de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, merci à Nine Edition, hein, de réhabiliter cette fabuleuse BD qui s'appelle donc Mortis, l'éternel retour, de Miguel Ferrada et Italo Ahumada, qui est donc disponible, je le redis, chez Nine Edition. Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale bande dessinée. Yeah. Nous allons quitter le Chili, mon cher Damien, pour maintenant aborder une BD assez originale. Enfin, qui s'inscrit dans le cadre d'une série anthologique, car ça s'appelle Low Rider, c'est le tome 3, c'est signé par les équipes du label 619, qui est désormais donc publié chez Rutsev. Vous connaissez toutes et tous mon amour de ce label, et donc cette série anthologique du label 619 a fait un peu suite aux anthologies Doggy Bags, et ce troisième tome de Low Rider est donc supervisé par Mutafu Kasman, alias... le génial Run, évidemment. Et tout ça s'inscrit dans la grande tradition des EC Comics, tout en étant particulièrement attaché à dépeindre les peurs de nos sociétés actuelles. Donc ça, c'est assez drôle. À l'image donc, de ce Low Rider tome 3, qui est réalisé en partenariat avec l'équipe du podcast québécois Distorsion, qui s'attaque au phénomène des creepypastas, que nous avons déjà abordé via l'excellente série Channel Zero. On en avait parlé dans Culture Prohibée. La série est disponible chez Elephant Film. Ici, Run et Petit Rapace traitent des Red Room sur le Dark Web. Run, Roars et No Name, No Socks abordent le jeu vidéo maudit et dans un style très manga. Et Pivoine s'attaque au virilisme, au coaching et à la, à la médication via le web, le tout débouchant sur une issue fatale avec donc ce segment qui est signé Pivoine, qui est très comics, qui pour moi d'ailleurs est le meilleur des trois. Mais Damien, toi, qu'en as-tu pensé de ce Low Rider tome 3 ?
Depuis mon arrivée dans l'émission, on est un peu hanté par les creepypastas. Elles reviennent de manière récurrente, une fois au moins par an. Alors, j'ai beaucoup aimé ce Low Rider tome 3. J'aime beaucoup le fait qu'il évoque les errances numériques, ou plutôt ces horreurs actuelles. Il essaie d'imiter un format un peu web dans sa narration et essaie de reproduire son flou, ce qui est pour moi son seul petit point faible, car... les histoires sont amplement fantastiques et ne peuvent pas vraiment jouer, en tout cas dans la BD, au niveau est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Néanmoins, je trouve que c'est une excellente introduction aux horreurs web, aidée notamment par la participation du podcast Distorsion, avec ses trois, voire quatre histoires. Alors, comme tu l'as dit en premier, on a l'histoire de Red Room, qui est vraiment les centres d'intention du dark web et des creepypastas, une sorte d'antichambre d'Internet qui est à la fois concentre les fantasmes et une réalité distordue. Et l'histoire m'a beaucoup fait penser à Unfred, Dark Web de Stefan Susko. Ensuite, il y a Salomon Testamentuma, que j'aime beaucoup, vu qu'il revient un peu sur le sujet des lost media, qui est actuellement très à la mode. Et il est d'autant plus fort qu'avec la disparition des jeux flash sur Internet, qui sont des jeux auxquels on pouvait jouer directement sur le navigateur via Flash, tous ces jeux ont disparu, 80% d'entre eux sont définitivement perdus, et du coup tu as un gros enjeu actuellement autour de l'archivage des jeux vidéo et aussi du numérique de manière générale. Et la dernière histoire, Red Pill, qui est aussi mon préféré, touche à quelque chose que j'aime beaucoup, touche à des sujets très prenants qui sont les QAnon, les masculinistes ou encore... les Inkels, il y a cet affrontement finalement entre l'homme et la société pourrie, mais surtout s'intéresse au comportement, au développement de comportements dangereux et sectaires. Je trouve que c'est un récit qui en fait une très bonne critique. Au final, c'est une histoire qui concentre beaucoup d'éléments actuels profondément intéressants. Il y a aussi la couverture dont on n'a pas parlé, mais pour lequel j'ai un très gros coup de cœur. Parce qu'il y a plein de petites références à des creepypastas dessus. Il y a aussi les articles que j'aime beaucoup qui accompagnent les histoires. Quand on connaît un peu, on est en terrain connu. Et lorsqu'on ne connaît pas, on tombe sur des sujets un peu plus profonds. Par exemple, il y a un moment où ils évoquent Petscope, que j'avais déjà évoqué dans la spéciale Found Footage, qu'on peut définir, qui est un ARG, mais qu'on peut plus facilement définir en une simple web-série d'analogue horror. Donc si on connaît l'horreur web, seules les fictions sont intéressantes, car c'est une anthologie horrifique. Par contre, si pour vous c'est un monde abstrait où les Red Room et les Creepypastas sont des mots que vous avez entendus sans en connaître le sens, les articles complémentaires permettent de saisir les enjeux autour de ce que vous avez pu entendre à télé, comme tout ce qui est le Momo Challenge ou des faits divers autour de l'application Randonautica.
Après Low Rider tome 3 de Run, Petit Rapace, Roars et Pivoine, restons chez Rue de Sèvres avec plus particulièrement, évidemment, toujours et encore le label 619, et la nouvelle BD de Florent Maudou, Clove de livre 1, La Dame de Birka. Nous avions quitté Florent Maudou, ex de l'école des Gobelins, des studios Disney et d'Eden Games, où il était animateur 3D sur des jeux vidéo, en 2022 avec l'album A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir. Album où il illustrait magnifiquement un scénario passionnant de Run. Clove de livre 1 s'inscrit dans un univers plus personnel, celui de sa série Freaks Squeal. On y retrouve d'ailleurs Funérail, le chasseur de monstres qui se débat dans ce monde recouvert par une brume très drue, le Clovd. Il s'allie avec la jeune Isatis, guerrière, conteuse et future bibliothécaire, car dans cette BD, il y a une grande importance du langage et de la transmission. C'est au centre de cette bande dessinée. C'est même ce qui fait qu'il reste encore un espoir dans le monde post-apocalyptique qui nous est décrit. Donc, il s'allie avec cette jeune Isatis, qui est une, je vous l'ai dit, elle est conteuse, future bibliothécaire et guerrière quand même aussi. Hein. Elle est pas mal à la baston. Qui est accompagnée, cette Isatis, de Xantia. Alors, Xantia, c'est un mélange entre une jument et une femme. Et oui, ça... C'est possible, ça existe. Pour lire ce post-nuque dans un monde sans technologie, car tout est empêché par le Clove, hein, pas besoin de connaître la série Freaks Squeal, même si l'auteur y fait parfois quelques allusions. Ce n'est pas très gênant. On sent ici plutôt que Florent Maudou veut poser les bases d'une nouvelle saga. Et on est vraiment en attente du coup du prochain tome. Parce que s'il est aussi beau, plastiquement parlant, doté du même sens du rythme du découpage, on signe de suite. Et donc, pour votre humble serviteur, avec Mutafukaz 2, cette série est l'une, en tout cas me paraît l'une des meilleures séries, des plus prometteuses actuellement disponibles, produites par le label 619 et donc disponibles chez Rutsev, Clovd, livre 1, La Dame de Birka de Florent Maudou. Et on va terminer par un petit passage chez Glénat pour le tome 2 sur 3 d'ailleurs, parce que c'est une trilogie, hein, donc ça, on va bientôt avoir le final, de Friday. C'est signé Ed Brubaker, grand maître du scénario, grand maître du scénario de comics, mais qui a aussi œuvré dans le polar. Là encore, il y a sa série en cours, Reckless, chez Delcourt, qui est absolument génial. Il y a aussi Criminal, enfin il y en a d'autres. Il y a Marcos Martino dessin et Muns Vicente à la couleur. Alors Friday, petit rappel hein, du premier tome, j'en avais parlé dans l'émission, qui est très très Stephen King. Hein. C'est une jeune étudiante, elle est en première année, elle rentre. Elle rentre dans son village de Kings Hill. Oh, où vont-ils chercher tout ça? Et celle qui fut une jeune détective en herbe, en fait, qui dénonçait tous les mystères liés à cette commune avec son meilleur ami, le brillant Lancelot Jones, dans le premier volume, hein, nous permettait de faire plus ample connaissance avec... un duo, donc un peu meurtri aussi en particulier, parce que lors du passage à l'âge adulte, les deux acolytes se sont fatalement posé la question d'aller au-delà de l'amitié hein, dans leur relation. Notre dynamique duo n'a pas eu toutefois le loisir de percer tous les mystères de King's Hill ensemble, puisque un événement terrible est venu conclure le tome 1. Alors attention, spoiler, hein, la mort de Lancelot Jones. Donc ces jeux innocents de deux apprentis détectives prennent alors une toute autre tournure et le trait étonnant mélange de Linklater façon Will Eisner et psychédélisme ou presque issu des 70s et BD à l'européenne est vraiment enthousiasmant. Le scénario, lui, on sent que Brubaker s'amuse beaucoup parce que là on est passé à tout autre chose dans ce tome 2. Complètement un univers complètement fantastique, très Lovecraft, très effrayant. Et il nous emmène donc sous d'autres cieux, hein, donc ceux de l'indicible peur, mais aussi de la légende arthurienne. Voilà. Donc il y a donc plein d'éléments dans ce tome 2 qui en font un tome encore plus passionnant, en fait, que le premier volume qui était déjà excellent. Donc on vous recommande vivement, Friday tome 2, paru chez Glénat de Ed Brubaker au scénario, Marcos Martin au dessin et Muts Vicente à la couleur. We'll be right back. c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.